C'est la vie en bleu. On s'installe dans la cuisine de France Bleu Loire-Océan avec notre chef ce matin, Nicolas Guillet, le chef de l'Uni, 36 rue Fouré-Anande. Voilà. On va faire des recettes autour, on va dire, de ces herbes de printemps, pas seulement les légumes de printemps. On va parler de l'ail des ours. Je vais lui demander déjà de nous expliquer à quoi ça correspond dans quelques instants. Et puis on va voir qu'il y a plein de légumes qui arrivent là où on les attendait avec impatience. C'est la fin de l'hiver, c'est le retour des beaux jours et on a envie de mettre tout ça dans notre assiette. On en parle ce matin dans la vie en bleu.
Hervé Marchionni, la vie en bleu.
Bonjour Nicolas Guillet.
Bonjour, allez bien?
Bien, très très bien,
soleil,
toujours.
Ça fait du bien.
Bah voilà, c'est ça. Et on a envie de retrouver ce soleil dans notre assiette.
Exactement, c'est fini l'hiver, fini les légumes de racine, tous les légumes oubliés, les panais, les feuillus avec les choux, les poireaux, comme vous disiez tout à l'heure, les pommes de terre.
Moi, je suis toujours un adepte de la soupe de poireaux.
Ah, après, on peut le dériver avec les premiers poireaux de printemps qui vont arriver. On a les petits poireaux crayons qui arrivent et après, ils vont pousser tout doucement.
Les petits poireaux crayons?
Crayons, c'est-à-dire, vous avez l'impression d'avoir un crayon. J'ai une productrice, Annie Bertin, juste au-dessus de Rennes, qui me produit ça et c'est vraiment magnifique. Vous pouvez les lier, mais les manger quasiment cru.
C'est ça. Alors, c'est la question que j'allais vous poser, tous ces légumes de printemps, parce qu'on dit légumes d'hiver, poireaux, pommes de terre, en fait, il y en a toute l'année.
En fin de compte, il y en a toute l'année. Après, c'est la. Alors après, c'est aujourd'hui le légume, on peut quasiment le trouver, malheureusement, je dis bien malheureusement, sur les
végétales
tout le temps.
Oui, on trouve des tomates en plein hiver.
Bon, pas que, maintenant on nous propose aussi du panais en plein été, donc on marche un peu sur la tête. Mais après, aujourd'hui, il y a des saisons pour chaque légume, on va dire les saisons optimum, c'est-à-dire là où on le trouve à sa meilleure consommation. Et puis après, il y a forcément des légumes qu'on appelle de garde, comme les pommes de terre, qu'on va arracher forcément à la fin de l'été, pour aller jusque dans l'hiver, parce qu'elles ont la faculté de pouvoir se garder, de pouvoir justement proposer quelque chose pendant l'hiver, ou dans le jardin, quand ça gèle, il n'y a plus grand-chose.
Alors en fait, ma question, c'était sur ces légumes qu'on a consommés en hiver et qu'on consomme au printemps, ces petits poireaux crayons, ils sont quoi? Ils sont plus sucrés, ils sont plus doux, ils sont...
Beaucoup plus tendres, c'est-à-dire qu'on n'a pas de résistance sur les feuilles. Après, on est à un côté donc oignon, mais beaucoup moins marqué comme on peut retrouver sur un poireau d'hiver qui va lui être plus concentré en saveur. Forcément, il n'aura pas eu le temps de s'exprimer autant. Et donc, c'est vraiment la grande différence entre les légumes d'hiver où on a vraiment des légumes qui sont bien marqués, qui sont assez fibreux. Avec, quand on arrive au printemps, justement, on va arriver un peu plus avec les feuillus. On a les côtes de blettes, les premières pousses d'épinards, les petits navets, où là, justement, on n'a aucune résistance. On a juste le plaisir de retrouver des légumes qui ont à la fois énormément de tendreté et de ce côté très juteux, très, très frais qu'on peut retrouver dans l'assiette après.
Alors là, les premiers légumes qui arrivent. Alors, l'ail des ours, légumes, pas légumes, pour moi, c'est un condiment. C'est quoi?
C'est un plaisir de cueillette lors d'une balade le long des fleuves.
Le long des fleuves? Pourquoi ça s'appelle l'ail des ours déjà?
L'ail des ours, après, il y a beaucoup d'historiques, mais après, si on regarde.
Est-ce que c'est de l'ail déjà?
C'est un allium. L'allium, en fin de compte, c'est le nom. Alors, ça, après, il faut s'adresser au jardin des plantes. Il y a des scientifiques un peu plus pointus que ce que je pourrais ne l'être. Après, c'est.
On va lui demander le nom latin pour
On peut le retrouver à la fois comme l'ail, comme on connaît, mais aussi on a toutes les fleurs d'allium qu'on peut retrouver. L'ail des ours, c'est juste une plante sauvage. Donc, pourquoi on l'a appelé comme ça? C'était dans les premières plantes que l'ours mangeait à la sortie de son hibernation.
D'accord, donc une plante de montagne.
Voilà, plante de montagne, et qu'on retrouve par chez nous. Si vous allez sur Vertou, vous vous baladez le long de la Sèvre, et vous allez réussir à... De toute façon, c'est simple à repérer, vous avez juste à ouvrir un peu le nez, et vous allez retrouver...
Parce que ça sent vraiment l'odeur.
Ça sent vraiment l'ail quand vous arrivez à côté. En fin de compte, c'est des feuilles qui vont ressembler un petit peu à des feuilles de muguet,
ouais.
Beaucoup moins épaisses, beaucoup moins rugueuses, entre la tétragone et le muguet, si on peut juger. Et après, justement, l'avantage, c'est que juste quand vous allez le prendre dans la main, vous l'écrasez un peu et voilà, vous commencez votre bordail.
Alors, vous me disiez, les cueilleurs de champignons connaissent bien l'ail des ours, c'est ça?
Généralement, souvent, les cueilleurs sauvages, donc ceux qui s'amusent à se trimballer en forêt pour réussir à trouver des champignons, connaissent également les coins d'ail des ours. Et puis après, ils vont dériver un petit peu sur l'asperge sauvage qui va arriver au courant du mois de juin, la petite asperge blé qu'on réussit aussi à trouver dans les bosquets. Donc, en fin de compte, chaque période, c'est des gens qui aiment beaucoup se balader, généralement ceux qui cueillent pour le plaisir. Et donc, ils connaissent bien les coins de chaque produit à la saison.
Voilà. Donc, l'ail des ours, là, on a parlé de l'asperge, c'est marrant parce que les premiers légumes de printemps qui arrivent, alors moi, je mets l'asperge, effectivement, dans
tout
les légumes qui arrivent là.
Alors, juste, moi, je dis toujours qu'avant l'asperge, il faut savoir aussi, l'asperge, on va. Ça aussi, tout à l'heure, on parlait des tomates qu'on réussit à trouver toute l'année. Malheureusement, sur les étals de l'asperge, on a réussi à en trouver toute l'année. Il faut bien savoir qu'on commence vraiment sur le mois de février. Et après, vraiment, là, on est quand même dans une culture en serre. Et après, sur vraiment la pleine terre, on va attendre encore un petit peu que le.
Dans le jardin de mon papa, c'était beaucoup plus
tard.
On arrive plus dans l'été quand le.
Je me souviens des monticules. Voilà, et puis
exactement. Et c'est une plante qui est assez difficile à faire pousser dans son jardin, parce qu'il faut être patient. C'est pas forcément la première année où ça va réellement donner. Faut s'amuser à bien les buter pour réussir à avoir des bonnes cultures. Et c'est vrai que c'est intéressant de trouver les premières, parce que c'est vrai que nous en cuisine, alors moi j'ai une cuisine qui est très végétale, mais heureusement pas que, avec beaucoup de poissons, beaucoup de viande aussi à côté, de coquillages. Mais c'est vrai qu'on a plaisir à avoir ces premières asperges qui arrivent sur justement le mois de février, pour fin février, début mars, pour se dire ah voilà, ça y est, on va pouvoir commencer à remettre un peu de soleil dans les assiettes. Et moi je sais que c'est toujours ce moment-là où quand on voit les asperges arriver, eh bien ça donne envie d'aller chercher d'autres
changements de carte.
Changement de carte, j'attends toujours justement les asperges, et puis ça nous permet de donner un nouveau cap aussi sur la cuisine, parce que la cuisine suit vraiment les saisons, nos envies, parce qu'on a une cuisine instinctive qui change régulièrement, et donc du coup c'est vraiment des envies ponctuelles qu'on a envie d'exprimer au travers des assiettes et des légumes et des produits.
Verte, blanche, violette, d'ailleurs je sais pas trop la différence entre blanche et violette moi, mais bon.
Alors blanche et violette, la violette va avoir justement un bas de corps qui va être plus blanc, mais la tête va avoir un petit peu plus vu le soleil, donc on va commencer à prendre des trames un petit peu plus violettes.
Mais c'est une variété différente.
C'est une variété aussi différente. Et après, l'avantage, c'est qu'on n'a pas non plus les mêmes textures. La blanche est toujours un petit peu plus fibreuse, demande un épluchage vraiment sur l'intégralité de l'asperge, alors que quand vous êtes sur les vertes, il y a vraiment que le bas de l'asperge qu'on va réussir à éplucher. Il faut ce qu'on appelle écussonner, c'est-à-dire enlever les petits pics sur la partie haute pour pas que ça soit dérangeant en bouche. Ouais. Mais après, moi, généralement, je prends l'asperge, je la divise en deux, je fais la première partie qu'on appelle écussonner, donc on enlève juste ces petits triangles qui sont sur le dessus. Et puis après, sur le bas, on va juste passer un petit coup de rasoir pour vraiment enlever les fibres, et à peu près comme ça on a vraiment tout l'avantage de garder une asperge moelleuse de la tête aux pieds.
Voilà, donc les feignants comme moi, on m'avait conseillé de prendre plutôt de la verte, parce qu'on m'a même dit qu'il n'y a pas d'épluchage sur la verte.
Alors après, il faut vraiment qu'elle soit fine. Si on va aller sur des asperges vertes où on n'a pas du tout besoin, c'est ce qu'on appelle les asperges balais. C'est-à-dire que c'est des asperges qui vont encore avoir à peu près la taille d'un crayon, et où là vous avez juste à couper vraiment la toute petite partie basse sur 2-3 cm, parce que c'est ce qui va toucher la terre et qui va être vraiment quand même un petit peu plus fibreux. Et après, justement, vous allez juste aller blanchir. Alors, ce qui est important dans l'asperge, moi, j'insiste toujours, c'est que sur la cuisson, il faut vraiment avoir ce que nous, on appelle les cuissons à l'anglaise, c'est-à-dire un départ avec de l'eau salée, fortement salée. Et puis, après, avoir un choc de température, c'est-à-dire vraiment eau glacée, si vous voulez les cuire à l'eau. Après, l'avantage aussi, c'est que ces asperges-là, comme il y a très peu de résistance, on peut les cuire à la poêle directement. D'accord. Juste à l'huile d'olive au démarrage, sel, poivre, et puis au dernier moment, un bon petit beurre moussant dedans, et là, vous n'avez pas besoin de les refroidir, vous les consommez directement.
Alors, on en parlait entre nous. Moi, je pensais que les asperges, pour moi, c'était synonyme du premier légume de printemps. Vous me disiez avant, il y a les bêtes. Alors, c'est quoi la différence entre les bêtes, les cardes, les cardons? Qu'est-ce que j'oublie encore?
Les cardes, on est vraiment de la côté des chardons, donc ça y est, on va avoir une feuille qui va être beaucoup plus dentelée, avec des petites épines sur le haut, un corps un peu plus fibreux. La blette, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment consommer les deux, avec deux textures qui sont complètement différentes, c'est-à-dire que la feuille, on va se rapprocher un petit peu des saveurs comme l'épinard, avec un petit peu plus de texture, un petit peu plus de nervure à l'intérieur. Et le corps, l'avantage, c'est que ça demande un petit épluchage pour enlever les fils, et puis après, vous pouvez quasiment les manger vraiment al dente. En ce moment, on les prépare juste tombés au beurre. Ça dure 5 secondes, on les taille en bâtonnets qui font 2 cm par 6 cm de long, et vous les tombez juste un beurre noisette, vous les faites revenir dedans, un trait de citron, des petites noix de cajou, et voilà, vous croquez ça, et ça donne juste envie de bien consommer les cartes différemment.
J'allais oublier, mais c'est bien de me le rappeler, l'épinard, les petites pousses d'épinard en salade.
Généralement, à cette période-là, sous la serre, c'est ce qui va revenir avec les jeunes pousses aussi. On a toutes les petites pousses de moutarde. Et en fin de compte, la jeune pousse épinard, l'avantage, c'est que là, on a vraiment quelque chose qui est vraiment hyper fondant, très savoureux forcément, parce que c'est les premières pousses, ça donne toute la saveur. Et l'avantage, c'est encore une fois, c'est des cuissons très rapides à cette période-là. Faut pas essayer de surcuire les produits, faut juste les laisser entre le cru et le cuit, et se faire plaisir avec ça.
Bon, va falloir encore attendre un petit peu pour la betterave de printemps, mais ça aussi, c'est un truc.
Les premières commencent à arriver, mais comme on appelle les premières betteraves.
Alors ça, c'est typiquement un légume qui change du tout au tout.
Moi, c'est un des fils conducteurs de la cuisine de l'Uni. Il y a souvent de la betterave, c'est-à-dire que j'adore justement entre les différentes textures.
Cru comme ça se mange tout seul.
Ça se mange cru, râpé finement à la mandoline avec un petit trait d'huile d'olive ou un petit peu de citron, sel, poivre. C'est juste magnifique. Et puis après, quand on est dans le cœur de l'hiver, qu'on a la chance d'avoir les belles betteraves crapaudines, les betteraves qui sont tout en long. Eh bien, ça, vous faites cuire ça sur un lit de gros sel et c'est avec des jolies caramélisations, c'est magnifique.
Bon, les bêtes, les cardes, les cardons, les épinards, qu'est-ce que j'ai oublié également? Les asperges, on va voir qu'on peut très bien les accommoder avec les ailes des ours. Il a plein d'idées de recettes. Nicolas Guillet, le chef de l'Uni, la vie en bleu, côté gourmand, 10 continue dans quelques instants. France Bleu.
D'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts.
Stromae et Papa Outé sur France Bleu Loire-Océan. C'est la vie en bleu, le soleil est au rendez-vous et on a hâte de le retrouver dans notre assiette. C'est avec Nicolas Guillet aujourd'hui qu'on cuisine les légumes de printemps. Le chef de l'Uni, c'est rue Fouret à Nantes. On est parti de l'ail des ours, mais en fait plutôt de tous les légumes de printemps.
Bah, en fin de compte, c'est difficile de se focaliser quand on est amoureux des produits, et quand on est amoureux du végétal, c'est difficile de se focaliser sur un produit, parce que forcément, chez nous aussi, ce qui marque un petit peu la maison, c'est les combinaisons, les associations de saveurs. Donc bah, l'ail des ours, on parlait de quelques recettes. En ce moment, on fait une pintade, donc une pintade fermière, donc qui a eu la chance de courir dehors, de ne pas être avec ses copines entassées, qu'on va juste apporter un petit peu. Voilà, elles ont réussi à profiter du soleil. Et donc justement, on va la contiser. Ce qu'on appelle contiser, c'est j'ai juste incisé le filet dans sa longueur et on va insérer une feuille d'ail des ours à l'intérieur. L'avantage, d'accord, c'est qu'on va juste la parfumer côté végétal et la pintade pour éviter qu'elle soit sèche, parce que généralement, quand on la mange le dimanche, on prend l'apéro un peu trop longtemps et on oublie la pintade au four et après on se casse les dents dessus. Là, on va l'emballer dans un papier film de façon très hermétique, comme on ferait une papillote, et on va la cuire tout doucement dans un four à 80 degrés. Et en chaleur tournante à la maison, chaleur tournante, comme ça tout le monde peut le faire à la maison, il n'y a pas de souci. Et donc pendant que vous prenez l'apéro, vous mettez la pintade au four, elle va changer de couleur tout doucement. Et donc ça va durer à peu près entre 25 et 30 minutes selon la taille de votre filet de pintade. Et après au dernier moment, vous allez juste ouvrir votre petite morceau papillote, de papillote en papier film et vous allez juste la snacker sur le côté pot, en fin de compte juste la mettre dans une poêle avec un petit peu d'huile, avoir le côté croustillant. Et à ce moment-là, vous allez avoir des saveurs d'ail qui vont arriver, parce qu'en fin de compte, l'ail, elle aura diffusé dans toute la la pintade, mais pas avoir ce côté marquant comme on pourrait l'avoir avec une gousse d'ail. C'est-à-dire qu'on va juste avoir cette saveur sans avoir le côté un petit peu repoussant que
on
chez
peut
certaines personnes.
Dans le gigot, par exemple,
voilà, ou quand on tombe dessus, bam, ouais, ça, on ne parle plus à personne pendant 10 minutes.
C'est ça, c'est un peu comme dans la fondue. Ah, t'as gagné, tiens. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai toujours un petit peu peur quand on filme comme ça les produits, non, à 80 degrés dans le four, il n'y a pas de souci.
Il n'y a aucun transfert. En fin de compte, c'est-à-dire que le film, c'est des films qui vont jusqu'à quasiment 180 degrés avant de pouvoir avoir justement un transfert, c'est-à-dire par une fonte et avoir un transfert sur les produits. Le but, c'est juste d'avoir une protection. Avant, on faisait beaucoup les papillotes dans l'aluminium, on a critiqué l'aluminium comme quoi il y avait des transferts. Après, aujourd'hui, il faut savoir que quand vous cuisez dans une poêle Tefal, il y a des transferts. Quand vous cuisez dans un. Voilà. Après, aujourd'hui, il faut essayer de retrouver les modes de cuisson qui vont essayer de. Donc d'avoir le maximum de naturalité, de respecter le produit au maximum. Et je pense que moins on va cuire fort, moins on aura ces problèmes justement de transfert. Et l'avantage, c'est qu'on respecte énormément l'humidité des produits et on regarde beaucoup de saveurs, beaucoup de juteux, beaucoup de... et de plaisir à redécouvrir.
Donc ces films, de toute façon, en spécial contact alimentaire, vous nous disiez cuisson jusqu'à 180 degrés.
Exactement, donc là, après, d'accord, vous pouvez jusqu'à 180, ça les supporte. Il ne faut juste pas les mettre dans la poêle.
Et le secret pour ce petit filet de pintade, vous nous disiez, avec un petit peu d'ail des ours au milieu, c'est de la faire revenir après, juste à la fin de cuisson, dans
l'huile. Pour moi, une volaille, il faut qu'il y ait un côté rôti, il faut qu'il y ait justement, tout à l'heure, on parlait d'association de texture, de saveur, mais il y a aussi des associations de texture.
Ça veut dire qu'on garde la peau ou pas?
Toujours.
D'accord.
On garde la peau, justement.
Comme les poissons, on fait revenir.
Exactement, ça va vous permettre d'avoir ce support sur la poêle sans agresser la viande, c'est-à-dire que vous allez faire croustiller la peau, vous allez avoir la chance de retrouver la peau comme sur un poulet rôti, mais à la fois vous allez garder tout le moelleux, parce que la peau aura été la protection justement sur le produit.
D'accord, ok. Recette, tiens, vous m'avez mis l'eau à la bouche, on va essayer de parler des cardes et des cardons et des bêtes et des blettes, enfin je sais pas comment on les appelle, mais les asperges, mais je pense que c'est une entrée la panna cotta d'asperges.
Ouais, en ce moment j'aime bien justement tout utiliser dans l'asperge. Tout à l'heure on parlait d'une épluchure d'asperge, de garder le côté filandreux, mais malheureusement ça a aussi du goût, et ça a énormément de goût. C'est comme on en parlait hors micro là tout à l'heure sur tous les produits, on essaie d'en utiliser le maximum. On peut, chez nous il y a un produit marqueur de l'entrée, c'est le bouillon végétal, où on récupère justement les fans des produits pour en extraire un maximum de saveur. Aujourd'hui sur l'asperge, je me suis rendu compte que l'épluchure d'asperge était très intéressante au niveau du goût, pas de la texture forcément, ce côté très filandreux. Donc j'ai fait un consommé assez marqué en asperge et je vais le transformer sur une panna cotta à la lait de coco. En ce moment on le fait avec vraiment un fil d'huile de sésame torréfiée. Et donc ça va être une base d'entrée, on va travailler sur ça, et après dessus on va retrouver justement des petites asperges taillées à cru, juste poêlées al dente, avec des petits morceaux de fenouil, des radis, des petites jeunes pousses de salade, et puis un petit jus qu'on va garder encore avec ce même consommé qu'on va faire avec de la verveine citron. Sur le toit de l'Uni, j'ai la chance d'avoir les premières pousses de verveine citron qui s'activent un petit peu, donc ça m'a donné envie de les amener en cuisine et m'amuser avec. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a réussi à trouver du végétal et de la texture différente et de tout utiliser surtout.
Bon, et alors moi je me souviens quand j'étais môme, les bêtes c'était pas mon truc préféré quand même, c'était un peu dur. Je trouvais que ça avait pas beaucoup de goût, donc on mettait de l'ail, on mettait du persil, on mettait un peu de sauce tomate. Comment vous les faites vous?
Justement, ce que je vous disais tout à l'heure, moi je vais essayer de les garder au maximum. On dit que c'est dur, mais en fin de compte c'est souvent qu'on oublie de bien les éplucher, d'enlever les fils.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on va faire des bâtons, en fin de compte on prend sa feuille de blette, on va faire des bâtons de 6 cm de long, et en les taillant, on va pas simplement les tailler avec un éminceur, on va les tailler à la moitié avec le petit couteau, on casse et on va tirer les fils.
D'accord.
C'est-à-dire que si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous allez avoir les fils qui vont être à la surface et vous avez juste à les éplucher.
Donc ça va être moins fondant, ça va être beaucoup plus dur si on les enlève pas.
Si on les enlève pas, vous allez avoir de la résistance forcément. C'est comme si vous mangez une pomme de terre avec la peau ou sans la peau. Ou voilà, ça va. On a exactement cette même résistance, c'est sa protection par rapport, tout l'extérieur. Donc si on cherche à l'enlever, justement, on va avoir juste du moelleux. Et après, l'important, c'est justement de tailler dans ces fils. Si vous faites des bâtonnets, taillez pas dans la largeur de la blette. Quand vous avez fait vos morceaux de 6 cm, taillez de haut en bas. Comme D'accord. ça, vous allez garder le fil et vous n'allez pas aller contre la nature du produit. Et après, c'est justement ces petits bâtonnets, ce que je vous expliquais tout à l'heure. On les fait juste au beurre moussant, noix de cajou à l'intérieur, un petit trait de citron jaune pour déglacer, pour bien les aciduler. Et vous gardez les feuilles, et les feuilles, vous les mixez avec de l'ail des ours.
D'accord.
Vous faites un petit jus de blette ail des ours, et puis justement, vous pouvez accompagner ça avec un poisson. Voilà, en ce moment, on a la chance d'avoir des très beaux lieux, des maigres, juste snacker à la poêle tout doucement.
Impeccable. Et puis, juste avant qu'Olivier me dise, on est trop long, une petite dernière avec les jeunes pousses d'épinards.
Jeunes pousses d'épinards, j'adore le faire.
En salade, ça me va.
En salade, ça vous va. Et bien, on va faire une petite salade, mais agrémentée. C'est-à-dire qu'on va faire un tiramisu. On prend les jeunes pousses d'épinards, on va les mixer avec un tout petit peu de crème. On va faire une pâte d'épinards, en fin de compte, comme une petite purée d'épinards. Et cette purée d'épinards, on va la monter avec une crème montée assez fortement. Et on va, en ce moment, il y a un agrume, les agrumes japonais, on est sur la fin des agrumes japonais, donc on peut trouver les mains de Bouddha à l'heure actuelle, il y a encore quelques limequat. Et donc, l'avantage, c'est juste d'apporter une touche. L'épinard, quand on l'a cru, il y a quand même une sorte d'amertume.
Ouais.
Et donc, le but, c'est de jouer avec cette amertume, l'amener sur de l'acidulé, en lui rapportant justement ces côtés citronnés qui vont la... Et puis après, on peut jouer avec un sablé breton au blé noir, au cacha, et s'amuser avec tout ça.
Et j'espère qu'on vous a donné envie de cuisiner ces légumes de printemps. En tout cas, vous les retrouverez à la carte de l'Uni. C'est 36 rue Fouret à Nantes. Nicolas Guillet, le chef de l'Uni, était ce matin notre invité pour nous proposer de cuisiner ces légumes de printemps et de retrouver le plaisir de cuisiner ces légumes de printemps. Merci Nicolas Guillet.
De rien, puis au plaisir de vous recevoir avec les nouveaux horaires du lundi au vendredi, sauf le mercredi midi, comme ça je peux venir chez vous.
C'est noté.
et Cookie Dingler sur France Bleu Loire-Océan. Les bonnes choses, c'est pas terminé. Carte blanche sera donnée à Cathy Carzero dans quelques instants, qui va nous faire découvrir un club de passionnés, Vertiva, un club de passionnés de vins, de bons crus, de bonnes choses, pas forcément très chers, qui vous convie à son salon des vins. Ce sera ce week-end à Vertou.
France Bleu Loire-Océan.
La vie en bleu,
c'est bleu.
Hervé Marchioni.
France Bleu. Ce mercredi dans C'est ma boîte, gros plan sur le Lab, le lanceur à business, créé il y a 3 ans par la fondation Les Apprentis d'Auteuil. Le Lab est un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises pour des jeunes peu qualifiés et sans réseau. Rendez-vous à 7h15 et 15h15.
Mémoire, attention, concentration, sommeil, que révèlent les sciences du cerveau aujourd'hui ? France Inter et la Massif vous proposent un cycle de conférences autour du cerveau, animé par Mathieu Vidard et Lionel Nakache.
Prochain rendez-vous le jeudi 18 avril à 20h pour découvrir les mystères du sommeil.
Une conférence à vivre en direct dans les salles de cinéma partout en France. Informations et réservations sur franceinter.fr. France Inter, une radio de Radio France.
En partenariat avec la Massif.
Massif. Essentiel pour moi.
Le cœur, ça compte. Alors rendez-vous chez Domitis les 29 et 30 mars à l'occasion des Parcours du cœur. Trouvez la résidence Domitis la plus proche de chez vous sur domitis.fr.
À Nantes, du pont Anne de Bretagne au pont Éric Tabarly, de la place Gralin au Bouffet.
France Bleu Loire-Océan. On est bien ensemble. France Bleu.
Et on fait la route ensemble sur France Bleu Loire-Océan. Des difficultés de circulation sur la nationale 165 dans le sens Nantes-Vannes à hauteur du Temple de Bretagne. Il y avait des travaux hier. Apparemment, il y a toujours un chantier en cours et 3,5 km de bouchons actuellement sur cette nationale 165. À noter qu'à Nantes, sur la ligne 1 du tramway, la station Manufacture est fermée en direction de la Beaujoire et Ranzé. Vous pouvez toujours monter à Moutonnerie. La station Manufacture sera de nouveau ouverte à partir de vendredi matin et nouvelle fermeture la semaine prochaine, du mardi au jeudi. Pour la suite de ces travaux, d'autres informations pratiques pour préparer vos déplacements comme celle-ci à retrouver sur la page trafic de francebleu.fr. Cathy Carzero va nous rejoindre. Carte blanche lui sera donnée dans quelques instants donc pour parler de ces bonnes choses. C'est même tout de suite d'ailleurs. Bah bien sûr qu'on la retrouve tout de suite, Cathy Carzero. Voilà, on parle de bon vin, Cathy.
Oui, c'est une carte blanche qui se sirote aujourd'hui avec un coup de projecteur sur la 7e édition du Salon des Vins, les Vertivini, au château de la Frémoire à Vertou. C'est un événement organisé par l'association Vertivin, cofondée par Jocelyn Gombeau. Jocelyn, c'est un passionné de vin qui est déjà intervenu dans cette carte blanche pour parler des vins de chez nous.
C'est une association qui a été créée en 2006, destinée à favoriser la connaissance de la vigne et du vin et de démocratiser l'accès à cette connaissance. C'est une association donc qu'on a créé moi-même avec Romain Maillet, un ingénieur agricole qui travaille à la Fédération des Vins de Nantes. Et l'objectif, c'est d'avoir des ateliers de dégustation, d'apprentissage de la vigne et du vin. Il y en a un peu pour tous les goûts et pour tous les thèmes. Il y a des groupes qui sont dédiés à la découverte de la vigne et du vin, des groupes qui sont dédiés à la connaissance pure du muscadet, du produit muscadet, deux groupes dédiés à la connaissance du muscadet, dont le fameux master de muscadet qui a démarré cette année, des groupes dédiés à la connaissance des appellations, des groupes plus scientifiques, des groupes dédiés à la pratique de la dégustation, des groupes dédiés aux accords mets vins. Il y en a pour tous les goûts. Et voilà, c'est à peu près 120 adhérents, 55 séances dans l'année, à peu près 600 bouteilles qui est dégustée chaque année.
Et vous organisez donc le week-end prochain la 7e édition de ce salon des vins, les Vertivini. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Dites-nous.
Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un petit salon, hein. Franchement, c'est vrai que parce qu'il n'y a que 21 vignerons, il y a des salons qui sont plus gros que ça. C'est un petit salon, 21 vignerons, que l'association Vertivin sélectionne avec un soin assez méticuleux. L'intérêt d'avoir des dégustateurs qui organisent ce salon, c'est justement qu'on sélectionne les vignerons qu'on veut voir. Donc avec un respect du lien avec le terroir, avec une netteté, une précision des vins qu'on souhaite, avec des nouveaux domaines également qui arrivent chaque année, qu'on essaye de découvrir chaque année. Là, notamment, un domaine du Muscadet, un domaine de Vertou qui fait son entrée au salon, le domaine de la Bareille particulièrement.
En sachant qu'il y a des vins d'Alsace, du Beaujolais, du Saumur, d'Auvergne, enfin des vins qui viennent de partout. Hein. Ce ne sont pas que des vins des Pays de la Loire. Hein.
Absolument, il y en a effectivement qui viennent de partout, d'Alsace, Bourgogne, Beaujolais, Bordeaux, il y a même du cidre de Bretagne, des vins du Languedoc-Roussillon, de la Loire, de la Savoie même. puis au moins, il y aura au moins trois nouveaux vignerons également du sud-ouest cette année.
Et puis, il y a des animations, des dégustations.
Il y a des petits ateliers gratuits avec le prix d'entrée qui sont des initiations à la dégustation, des dégustations qu'on appelle verticales dans notre jargon de dégustateur. C'est des dégustations d'un même vin sur 10 millésimes. Ce sera les vins du vigneron de Gorge d'Amiarino. Il y aura également une dégustation d'huîtres avec le vigneron de Château Thébault, Édouard Massard, huîtres et gros plans. Et puis, et c'est la particularité aussi des Vertivinis, c'est que on essaye également d'avoir des animations gratuites pour les enfants, pour pouvoir permettre de dégager un peu les parents pendant une petite heure pour qu'ils puissent aller goûter 2-3 vins. Et puis nous, on s'occupe des enfants. Donc il y a généralement, c'est une animation culinaire avec une entreprise qui s'appelle L'Overview à Clisson qui va s'occuper d'eux et leur faire fabriquer des petits gâteaux ou des petites sucreries, des petits bonbons, voilà, pendant une heure pour laisser un peu papa-maman libre pour aller rencontrer des vignerons. Et voilà, tarif d'entrée, c'est 5€ avec un très beau verre, un verre de dégustation, de compétition qui est offert avec l'entrée.
Du très très bon, franchement, en perspective, avec les Vertivini, le salon des vins de l'association Vertivin, c'est au château de la Frémoire à Vertoux, samedi de 14h à 20h, dimanche de 10h à 18h, toutes les infos sur le site vertivini.fr, également sur Vertivin.
Voilà, vous avez toutes les infos, c'est noté. Ça se passe ce week-end donc au château de la Frémoire à Vertoux. Que peut-on faire en Pays Lyonnais? C'est la question qu'on posera à Alexandre Éloire dans quelques instants de l'Office du tourisme de La Roche-sur-Yon. France Bleu.